tout ce spectacle. Tout ce spectacle, l'actualité du spectacle vivant à Toulouse et dans la région. Une émission présentée par Emmanuel Gaillard.
Bonjour à toutes et à tous. Alors à la veille de Noël, à la veille d'une fête qui célèbre la nativité, je reçois une artiste qui a imaginé une expérience théâtrale immersive qui nous plonge à l'intérieur des sensations que vit une femme enceinte de son bébé. J'entends battre son cœur. C'est le titre de ce spectacle poétique et sensoriel où le public, lové dans des coussins, va être témoin et même mieux que cela, va ressentir les événements, les pensées, les émotions de cette future maman. Cet étonnant spectacle va être donné du 11 au 15 janvier à Blagnac dans le cadre de la saison d'Audi Sud. Et j'ai le plaisir de recevoir Lou Broquin, créatrice de ce spectacle et directrice de la compagnie Créature. Bonjour Lou.
Bonjour.
Tout ce spectacle, l'interview.
Alors la compagnie Créature, fondée par tes parents il y a quelques décennies de cela, donc tes parents Michel Broquin, ton père, et Odile Brissette, ta maman, s'est illustrée pendant une trentaine d'années dans le domaine des formes animées, des marionnettes, du théâtre d'objets contemporains, en particulier en direction du jeune public, mais surtout de tous les publics, en devenant une compagnie de référence dans ce domaine. Alors tu as repris le flambeau de cette magnifique compagnie, voici une petite dizaine d'années. Dans l'identité et dans les projets de la compagnie Créature, quels sont finalement les éléments qui perdurent et les nouveautés que tu as apportées à travers ta sensibilité personnelle?
Je crois que ce qui perdure, c'est ce dont tu parlais, c'est-à-dire les piliers qui sont la relation aux formes animées et à la marionnette actuelle. Les questionnements à l'endroit de l'adresse au jeune public. Donc ça, on va dire que c'est l'ADN de la compagnie, c'est mes racines à la fois, comme tu le soulignais, familiales et artistiques. Et forcément, quand on prend la direction d'une structure comme la compagnie Créature, on insuffle des directions qui sont tout à fait personnelles. Je pense que la compagnie, par exemple, a tissé des nouvelles relations avec des auteurs contemporains, puisque jusque-là, jusqu'à mon arrivée au sein de la compagnie, l'habitude était plutôt dans l'adaptation d'albums jeunesse, donc l'adaptation d'écriture non théâtrale. Avec mon arrivée, la collaboration avec des artistes auteurs d'aujourd'hui va débuter, et puis va se prolonger, puisque chacune de mes créations, en tout cas de mes dernières créations, a comme axe majeur aussi la question de l'écriture théâtrale jeunesse.
Voilà, qui est un très beau sujet, très, très actuel bien sûr, et puis les auteurs vivants sont évidemment imprégnés de notre époque et de ses problématiques, donc, et de notre poésie d'aujourd'hui, donc c'est évidemment tout à fait important. Alors chacun de tes spectacles est une invitation à la poésie, et aussi à l'intériorité, il y a toujours cet aspect de se reconnecter avec ses émotions souterraines, avec l'intimité de son propre parcours, de son propre cheminement. Là, je prendrai l'exemple des Irréels. Alors, c'est peut-être un spectacle qui a été beaucoup vu dans la région, à Blagnac, bien sûr, mais aussi à Toulouse, au moment de Noël, il y a de cela quelques années. Donc, les Irréels, cette tribu de personnages doux et poétiques qui proposent dans leur cabane un cheminement intime dans le monde des émotions et du rapport au monde. Alors, ce spectacle incroyable, il continue sa carrière une dizaine d'années après sa création.
Oui, mais je crois que ça a été une surprise pour tout le monde. Quand, en 2015, la mairie de Toulouse me donne une carte blanche pour habiter la cour intérieure du Capitole durant tout le mois de décembre, en me demandant de proposer un spectacle qui puisse célébrer non pas Noël dans ce qu'il a de commercial ou de religieux, je dirais, mais plutôt Noël dans ce qu'il a d'humain et de bienveillant. Donc à ce moment-là, avec l'équipe artistique de la compagnie, on imagine ces 15 identités, ces 15 personnages et donc ces 15 cabanes. Et on est très loin d'imaginer que... Donc non, c'était pas en 2015, c'était en 2013.
Alors, ouais. Ça fera 10 ans.
Fera 10 ans en décembre 2023. On était très loin d'imaginer que ce spectacle allait nous conduire là où il nous a conduit, c'est-à-dire dans, je crois, près d'une d'une dizaine de pays européens, mais aussi, il nous a conduit donc sur des territoires différents, mais il nous a conduit dans la rencontre à l'autre d'une façon qu'on ne connaissait pas encore. C'est-à-dire une rencontre qui se fait toujours dans la subtilité, la poésie. Je parle de rencontre, c'est vraiment ça hein, que proposent les irréels. C'est une relation à l'œuvre tout à fait particulière, puisque c'est une performance poétique pour l'espace public, poétique et silencieuse. En général, les spectateurs sont d'abord un peu déboussolés par rapport au code de ce spectacle et finissent par se laisser aller, en fait. Et c'est bien ça que proposent les irréels, c'est se laisser aller à l'instant et se reconnecter effectivement à notre intériorité, à ces petites choses auxquelles on ne fait plus attention et qui ont, mais pour autant, une valeur extrêmement importante, quoi.
Voilà, alors pour ceux qui l'ont vu, on s'en souvient, c'est comme des maisons de poupées, des petits univers comme ça, avec l'intérieur d'une maison, d'une pièce, avec un personnage dedans, avec quelque chose de mystérieux, de poétique, et qui touche absolument tout le monde, les petits, les grands. C'était un spectacle vraiment merveilleux.
Tu es là. Tu m'entends ? Tu es à l'intérieur et tu m'entends. Je le sais.
Alors venons-en à présent au spectacle « J'entends battre son cœur », ce spectacle intime lui aussi, immersif sur la nativité. Alors quelle est la particularité de ce spectacle ?
Alors la particularité de ce spectacle, c'est qu'il ne se vit pas face à une scène, mais il se vit à l'intérieur du spectacle. Mais en fait, ce spectacle, il est né de quelque chose que j'ai identifié dans mon travail, qui est qu'en fait, je ne veux pas raconter des histoires, je veux raconter comment les histoires transforment les humains. Et je veux raconter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous quand on vit quelque chose. Là, par exemple, Emmanuel, on est en train de discuter tous les deux. Il y a le présent des mots qu'on est en train d'échanger, mais il y a le présent de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous, les sensations, les images, les couleurs, les choses qui vont jaillir de ce qu'on partage tous les deux. Et en fait, je me suis aperçue que c'était à cet endroit-là que je voulais inscrire le spectateur. Et j'ai poussé très loin ce raisonnement en disant, en fait, je ne veux pas que le spectateur soit face, je veux qu'il soit à l'intérieur, je veux qu'il soit à l'intérieur du personnage. Et je me suis dit, OK, ça c'est une idée, mais ça ne fait pas un spectacle. Qu'est-ce qui, dramaturgiquement parlant, pourrait me donner la possibilité d'inscrire le spectateur à l'intérieur du personnage? Et là, j'ai pensé à un état qui est un état que j'ai connu deux fois dans ma vie, qui s'appelle l'état de grossesse, qui est un état, je pense, absolument naturel et en même temps complètement fou, de porter un autre être humain à l'intérieur de soi. Et je me suis dit que finalement, c'était un sujet dont on parlait très peu et qu'on banalisait, alors que je trouvais que c'était une aventure absolument formidable et qu'au-delà de l'état de grossesse, quand on aborde cette thématique-là, on aborde la question de la transformation. Et ça, chaque être humain, quel qu'il soit, il a connu ou il connaît cet état de transformation, puisque je ne suis pas la même personne qu'hier matin, par exemple, et que forcément, je suis en mutation constante. Et je me suis dit, je vais, encore une fois, à l'aide de l'équipe artistique de la compagnie, penser un espace où les gens vont rentrer dans la cavité utérine d'une femme enceinte. Alors, cavité utérine qui n'est pas représentée de façon scientifique, parce que ça, c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est la poésie. Donc, l'évocation poétique de cet espace-là. Et je vais leur proposer de cheminer dans la transformation de cette femme en étant, finalement, le personnage principal, c'est-à-dire l'enfant à naître, composé de ces 70 spectateurs qui sont assis sur des fauteuils qui pivotent à 360 degrés ou dans des hamacs suspendus, selon le choix qu'ils auront fait à l'entrée du spectacle. Et donc, c'est dire que finalement, ce spectacle, il va venir étreindre les spectateurs. Et le spectacle et le spectateur, je l'espère, finissent par former qu'un.
Alors, justement, c'est un peu mystérieux au fond. Qu'est-ce que va ressentir le public? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il voit sans trop dévoiler? Mais quand même, pour que nos auditeurs se rendent un petit peu mieux compte de la situation du spectateur. Il entend une musique, il entend paroles, il y a des personnages, il y a un décor,
C'est un petit peu tout. En fait, c'est-à-dire c'est entre l'installation plastique et le spectacle, c'est entre l'installation sonore et le spectacle, c'est entre la performance de comédien et le spectacle. C'est-à-dire que j'ai demandé aussi à l'équipe artistique avec qui je travaille depuis longtemps, à savoir par exemple Christophe Ruetsch, qui est le compositeur de toutes les musiques de mes spectacles, ou Guillaume Herman, qui est l'éclairagiste, et les deux interprètes, Julien Lecusiat et Sonia Belskaya, je leur ai demandé de se déplacer aussi dans leur pratique. Et j'ai demandé la même chose à Henri Bornstein, qui a écrit ce texte spécialement à ma demande. J'ai demandé à ce qu'on envisage nos métiers différemment. C'est-à-dire que forcément, éclairer un espace dans lequel il y a le public, par exemple, ça demande des contraintes très fortes et donc de l'adaptation. Le spectateur, il va vivre une aventure absolument immersive et sensorielle. C'est-à-dire qu'on va aller titiller la totalité de ses sens, que ce soit aussi le sens olfactif ou le sens tactile, c'est-à-dire qu'il va être confronté et il va aller rencontrer les évocations émotionnelles de cette femme. J'ai fait une analogie esthétique entre le monde organique, qui est l'intérieur de notre corps, et les mondes aquatiques. C'est-à-dire que cette cavité utérine, c'est peut-être aussi une grotte sous-marine. Et je dévoile là un début de réponse quant aux êtres que nous allons rencontrer dans cette cavité.
Oui, il y a une dimension. Bon, j'ai assisté et j'ai vécu ce spectacle parce que assister n'est pas le bon mot, c'est vivre. On vit vraiment une expérience, c'est ça qui est merveilleux. On est immergé dans un monde étonnant, étrange. Très doux, il faut quand même le dire. Rien d'inquiétant dans tout cela, quand même pour l'essentiel.
Bien sûr.
Voilà, on n'est pas non plus dans un bisounours complètement ouaté non plus. Il y a des émotions,
c'est
il
un
y a
pari,
des événements.
Hein. C'est un pari qui est fait avec le spectateur, de se dire on va ensemble aller visiter cette grotte. Je reviens sur ce que tu dis de douceur et de bienveillance. Il faut savoir que ce spectacle, il a été pensé avant le Covid. Et il a été façonné pendant le Covid. Donc, c'est pas rien pour nous.
Oui,
et d'ailleurs,
donc la cavité.
Ouais. Et puis, les partenaires.
La cavité bienveillante, finalement.
Les partenaires qui ont soutenu ce spectacle, dont les théâtres partenaires, nous ont vraiment accompagnés pour que ce spectacle existe. Quand même, dans un contexte où on parlait de distance sociale, tout ça. Là, parlait d'aller mettre 70 spectateurs enfermés dans un dispositif. Donc, ça a été un sacré pari. Mais j'avais envie, vraiment, d'une étreinte réconfortante aussi, que le spectateur, parce qu'il va être confronté à ses propres ressentis, puisque on parle d'état humain, donc on traverse tous des émotions, des questionnements, des doutes, et qu'il se sente absolument pas seul dans cette rencontre avec l'œuvre, mais qu'il sente aussi qu'il y a toute une équipe autour de lui qui l'accompagne, équipe formée par l'équipe artistique, mais aussi par l'équipe de spectateurs.
Bien sûr.
C'est-à-dire que là, on est tous ensemble dans cette histoire.
On se voit, on se côtoie. Il faut dire quand même qu'on n'est pas non plus les uns accolés aux autres.
Ouais.
Il y a un certain confort quand même, je trouve. Et voilà. Mais en effet, les spectateurs font partie du spectacle. On se voit les uns les autres. On s'aperçoit dans la pénombre, dans les lumières. Et puis, on voit effectivement ces personnages qui évoluent. Alors, finalement, que délivre comme message ce spectacle ?
Je ne sais pas si je pourrais en choisir un, si ce n'est de dire que ce spectacle, il l'accompagne sur le chemin de soi, en fait. Cette femme, en accompagnant cet individu qui est en train de se construire à l'intérieur d'elle, elle est en train de réinterroger ce qu'elle est, elle, aujourd'hui. Et ce qui me plaisait dans l'état de grossesse, c'est le fait que c'est un état qui va venir questionner toutes nos relations. C'est nos relations familiales, quand une femme devient mère pour la première fois, ses relations à ses parents, à ses frères et sœurs, à sa compagne ou à son compagnon vont être transformées par l'arrivée. Par l'arrivée de cet enfant. Nos relations sociales, puisque pour l'avoir vécu, lorsque j'étais enceinte, j'avais l'impression parfois que j'étais enceinte du monde entier. C'est-à-dire que j'allais donner suite à l'histoire humaine. Donc, il y a aussi cette conscience-là du monde tout d'un coup. Et puis, il y a sa relation à sa propre enfance aussi. Est-ce que devenir mère ou devenir père, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de quitter son enfance ou pas? Qu'est-ce que ça va aller questionner? Ça questionne les racines aussi. Qu'est-ce qui fait que je suis moi aujourd'hui? Est-ce que c'est mes racines? Est-ce que c'est mes branches qui me construisent? Est-ce que c'est les deux? Donc, pour moi, il y a aussi Ce spectacle, je l'ai pensé aussi pour les adolescents, parce que j'ai fait de façon intuitive cette relation entre l'état de grossesse et l'état d'adolescence, qui sont en fait des états qui se ressemblent énormément sur le plan physique, le corps est en bouleversement, sur le plan hormonal. Les chercheurs savent aujourd'hui qu'il y a des connexions neuronales qui se font chez la femme enceinte et sa compagne ou son compagnon, comme chez l'adolescent, en fait. Donc ces transformations-là, elles sont réelles. Donc il y a... Pour moi, ce spectacle, il vient interroger, je dirais, les fondements de ce que nous sommes, en fait.
Voilà, un spectacle, donc, au fond, à la fois poétique et finalement assez existentiel. Hein. En tout cas, c'est une magnifique proposition qui sera donnée du 11 au 15 janvier, donc dans une salle un peu particulière, puisque ce sera la salle des fêtes de Blagnac, mais ce sera rien à voir avec ce qu'on peut imaginer d'une salle des fêtes, ce sera simplement l'écrin de ce spectacle. Donc, une cavité reconstruite pour 70 spectateurs. Donc, une dizaine de représentations entre le 11 et le 15 janvier à Blagnac, dans le cadre de la saison d'Audi-Sud. Vous pourrez découvrir quelques images, on a un teaser, et puis on va écouter la musique, l'ambiance sonore de cette proposition vraiment tout à fait à part. Voilà, en tout cas, un grand merci Lou pour d'être venu témoigner de cette magnifique proposition. J'entends battre son cœur, donc la compagnie Créature, un texte de Henri Bernstein, et donc une mise en scène de Lou Broquin. Merci Lou.
Merci.
À très bientôt.
Au revoir.
Tout ce spectacle, les rendez-vous à ne pas manquer.
Proche, et c'est vrai que les fêtes de fin d'année sont propices à ce type de sortie. Alors à Toulouse, il y a quelques très beaux spectacles qui jouent jusqu'au 31 décembre. Au Théâtre du Pavé, les deux pièces de Marcel Pagnol, Marius et Fanny, ces deux pièces seront jouées en alternance au Théâtre du Pavé dans une mise en scène de Francis Azéma. Jusqu'au 31 décembre, à Tournefeuille, eh bien, il y aura toujours Ubu Roi d'Alfred Jarry par la compagnie du Grenier de Toulouse. Voilà, c'est du théâtre surréaliste, loufoque et finalement assez politique. Et puis, les 31 décembre et 1er janvier, c'est le traditionnel concert du Nouvel An de l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Trois représentations, donc la Halle au Grain, avec un programme américain. Ce sera un Noël à Broadway avec des œuvres de Leonard Bernstein et de George Gershwin. Quelques spectacles pour début janvier à Toulouse. Les 3 et 4 janvier au Casino Barrière de Toulouse, dans le cadre de la saison Hors les murs d'Audi-Sud, eh bien, ce sera Casse-noisette de Blancali. Blancali, la star espagnole. Un spectacle un peu déjanté. Il ne faut pas s'attendre à un casse-noisette des plus classiques. C'est au contraire un casse-noisette recyclé à la mode hip-hop et avec des danses urbaines. C'est très joyeux, très enlevé, très festif. Ça plaît véritablement à tous les âges parce que c'est fait avec beaucoup de goût et de talent par Blancali. Il y a des vidéos et c'est surtout la très belle histoire de Casse-Noisette qui est évidemment intégralement donnée, mais dans une couleur bien différente des casse-noisettes très classiques. Un casse-noisette d'aujourd'hui, très enlevé et gentiment déluré. Les 7 et 8 janvier, à l'Aria Eh bien, c'est donc Public de Pierre Rigal dont on a parlé la semaine dernière. Vous pourriez, si vous le souhaitez, en savoir plus sur ce spectacle particulier dans lequel le public lui-même va fabriquer le spectacle. Vous pouvez écouter le podcast de l'émission de la semaine dernière qui était consacrée à cette expérience assez étonnante. Et puis les 10 et 11 janvier à Tournefeuille, du baroque anglais à la pop anglaise par l'orchestre de chambre de Toulouse qui revisite ainsi les tubes depuis Purcell jusqu'aux Beatles de la musique anglaise à travers les âges. Le 12 janvier à la Hallograin, l'orchestre du Capitole et une distribution prestigieuse donneront La vie parisienne d'Offenbach, c'est la célèbre opérette d'Offenbach, la plus fameuse, qui sera donnée en version de concert à la Hallograin. Les 10, 11, 12, 13 et 14 janvier, dans la grande salle du Théâtre de la Cité, Oncle Vania, le chef-d'œuvre de Tchekhov, sera donné dans une toute nouvelle mise en scène signée de Galine Stoeff, le directeur et metteur en scène du Théâtre de la Cité. Voilà pour cette sélection des spectacles que vous pourrez voir en cette fin d'année. Il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël, voilà, et de vous retrouver la semaine prochaine, vendredi prochain, pour la dernière émission de l'année 2022. Mon invité sera la chorégraphe Myriam Désy, directrice de la compagnie L'Hélice. Très joyeux Noël!